Bienvenue sur le podcast Art de Vivre. Je suis Daphné Moreau, entrepreneuse passionnée de bien-être et de développement personnel. Depuis plus de 15 ans, je partage mes conseils, mes découvertes et mes challenges auprès de ma communauté, sur mon blog et sur les réseaux sociaux. Art de Vivre, c'est une approche globale du bien-être, à la fois physique et mentale. Chaque semaine, je vous propose une bonne dose d'inspiration, des astuces pratiques et des stratégies simples et concrètes que j'utilise moi-même au quotidien pour construire une vie intentionnelle, riche, épanouissante, créative et productive. Si vous aimez apprendre et que vous cherchez à cultiver le bonheur dans votre quotidien tout en développant votre propre potentiel, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour l'épisode du jour! Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous cette semaine. Au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, le printemps a enfin fait son arrivée avec un beau soleil et des températures hyper douces. J'ai ressorti mes chaises longues dans le jardin et je peux donc reprendre mon rituel préféré à cette saison, lire quelques minutes après le repas au soleil dans le jardin en buvant mon thé. J'avoue qu'à cette saison, je revis et pour moi, à partir du 1er mars, c'est l'autoroute du bonheur jusqu'à fin décembre parce que j'adore le printemps, l'été, l'automne, les fêtes de fin d'année. Donc là, je sais que je vais vivre ma meilleure vie pour les 9 mois à venir et je m'en réjouis. J'avais hâte d'aborder avec vous la thématique du jour. Vous le savez, ça fait plus de 10 ans que je suis passionnée par le développement personnel, mais mon intérêt pour ce domaine et pour le bien-être en général a vraiment été boosté par le burn-out que j'ai fait fin 2019 et qui a vraiment été une invitation à remettre ma vie à plat, à apprendre à me reconnecter à moi-même, à me connaître profondément et à créer une vie que j'aime et que j'ai vraiment envie de vivre. On a tous et toutes des quotidiens rempli et c'est facile, tellement facile de se laisser emporter par le tourbillon de la vie et de passer en mode pilote auto en ayant l'impression de vivre notre vie de manière automatique, parfois même de la subir, un peu comme si on n'avait aucun contrôle et qu'on n'était plus le capitaine du navire. Donc dans cet épisode, j'avais très envie de vous livrer mes 7 secrets, si on peut dire, pour construire une vie qu'on aime, qu'on a envie de vivre de manière intentionnelle. La première chose pour apprendre à construire une vie qui nous ressemble, c'est d'apprendre à se connaître. Sous les couches de conditionnement, sous le masque qu'on a tous et toutes, est-ce qu'on se connaît vraiment nous-mêmes ? Est-ce que notre vie, notre parcours, nos intérêts, nos passions, nos envies, nos hobbies sont réellement les nôtres ou sont influencés beaucoup ou en partie par la société, par notre éducation, par notre environnement ? Il y a plein de manières d'apprendre à se connaître. Moi, je suis une grande adepte de la thérapie et ou du coaching pour vraiment apprendre à se découvrir, à comprendre qui on est, comment on fonctionne. Personnellement, c'est deux formes d'accompagnement qui m'ont vraiment énormément aidée dans mon cheminement personnel, de manière différente mais complémentaire et que je recommande à tout le monde. Je pense qu'on bénéficierait vraiment tous et toutes de prendre ce temps pour apprendre à savoir ce qui se passe réellement dans notre esprit, le tout dans un safe space et accompagné par quelqu'un pour nous guider. C'est vraiment pour moi une forme de self-care, de s'offrir ce temps pour apprendre à se connaître. Et une autre pratique par laquelle je jure pour apprendre à se connaître, qui est très facile à mettre en place et gratuite, c'est l'écriture dans un journal. Vous devez vous dire, j'en peux plus qu'elle me parle sans cesse du journaling, mais que voulez-vous ? C'est vraiment une pratique qui est centrale pour moi. Et si vous me suivez sur les réseaux sociaux ou sur le podcast, vous savez que c'est une pratique dont je parle très souvent. Moi, je pratique le journaling depuis plus de 4 ans et c'est vraiment une pratique qui a révolutionné ma santé mentale, notamment via la connaissance de soi. Écrire, ça m'a permis d'identifier mes modes de pensée, de prendre de la hauteur sur les événements qui se passent dans ma vie, mais aussi sur les émotions que je peux ressentir au quotidien. Ça m'a permis de constater quelles situations, quelles personnes me nourrissent, me font grandir ou au contraire me coûtent de l'énergie. Et tout ça, ça m'a énormément aidé à prendre des décisions et à construire une vie que j'ai envie de vivre. Il y a plein de manières d'utiliser le journaling pour apprendre à se connaître. Très simplement en écrivant régulièrement et en voyant ce qui ressort, ce qui revient. Mais bien sûr, vous pouvez aussi utiliser des amorces pour aller plus loin en vous posant des questions spécifiques. Par exemple, qu'est-ce que vous aimeriez avoir accompli dans votre vie ? Pourquoi est-ce que vous aimeriez être connu ? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise à propos de vous ? Alors, je ne vais pas rentrer en détail dans le sujet du journaling parce que j'ai dédié un épisode de mon podcast il y a quelques semaines à ça. Donc, je vous remettrai dans les notes de cet épisode le lien vers cet épisode dédié au journaling. Mais vraiment, moi, c'est un outil central pour moi au bien-être et qui est vraiment un tremplin vers la connaissance de soi. Parce que, à travers la connaissance de soi, le but, c'est finalement de comprendre ce qui nous fait vibrer, ce qui nous anime, ce qui nous fait du bien, ce qui nous procure de la joie, du plaisir, ce qui nous fait nous sentir épanouis, pour pouvoir ensuite mettre les actions nécessaires pour créer tout ça de manière concrète dans sa vie. Mon deuxième conseil pour construire une vie qu'on a envie de vivre, c'est de définir des objectifs et des priorités. Si on ne sait pas quelle est la cible à viser, évidemment, on ne pourra jamais l'atteindre. C'est tellement logique et pourtant tellement d'entre nous vivent en mode pilote automatique sans vraiment savoir où on veut aller, un peu comme si on se mettait au volant et qu'on prenait la route dans notre voiture sans destination très précise en tête. Une fois qu'on a appris à se connaître, qu'on a identifié ce qu'on aimerait créer dans sa vie, les choses deviennent souvent beaucoup plus claires et ça va être plus facile de définir nos propres objectifs de vie, pro comme perso, ainsi que nos priorités. En tant qu'être humain, on a tendance à sous-estimer ce qu'on est capable de faire sur le long terme et au contraire à surestimer ce qu'on est capable de faire sur une courte période. Vous en avez peut-être déjà fait l'expérience, quand on fait une to-do list journalière, on a tendance à la charger en se disant « oui, je vais m'en sortir, je vais y arriver », alors qu'au contraire, quand on imagine des objectifs sur 6 mois, 1 an, 5 ans, on va avoir tendance à sous-estimer ce qu'il est possible de créer. Personnellement, quand je définis des objectifs, quand ce sont des grands objectifs, entre guillemets, dans le sens des objectifs vastes où il va y avoir plusieurs étapes à mettre en place, je fais toujours en sorte de les découper en mini-étapes, en mini-objectifs concrets et réalistes. C'est quelque chose que je fais toujours personnellement en début d'année. Je fais le bilan de mon année précédente et je définis des intentions et des objectifs pour l'année qui commence, que je vais ensuite réévaluer régulièrement. Donc souvent, je me fais un petit check-up à la fin de chaque trimestre pour voir si j'avance comme je voudrais et aussi pour voir si mes objectifs définis en janvier sont toujours alignés avec ce que j'ai envie de créer dans ma vie, parce que parfois, on change d'avis en cours de route et c'est aussi OK. J'avais fait un épisode dédié à ça, avec justement des questions pour faire le bilan sur son année précédente et pour définir ses nouvelles intentions. C'est un épisode que j'avais fait au moment du début d'année en janvier, mais évidemment, on peut recommencer à tout moment. Donc si jamais vous avez envie de l'écouter et de définir vos intentions pour l'année en cours, je vous mettrai de nouveau le lien dans les notes de cet épisode. L'idée ensuite, ça va être de venir créer des routines qui vont permettre de concrétiser, de mettre en matière ces objectifs. Un des outils que je préfère pour ça et que j'utilise personnellement au quotidien et dont je vous ai déjà parlé, c'est le time blocking. C'est une méthode de gestion du temps qui a été largement popularisée par un auteur américain qui s'appelle Cal Newport, qui consiste à diviser sa journée en blocs de temps qu'on va consacrer à des tâches spécifiques. Donc l'idée, c'est de faire une to-do list générale pour sa semaine en définissant ses objectifs et ses priorités, puis d'allouer un bloc de temps à chaque tâche. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre to-do list, vous la chiffonnez, vous la jetez. Vous n'en avez plus besoin puisque vos tâches sont déjà définies et calées dans votre planning. Petite astuce aussi, c'est important de planifier du temps pour les imprévus parce qu'il y en aura toujours. Et évidemment, c'est important aussi de se tenir au planning qu'on a défini. C'est là que la discipline va jouer un rôle très important et ça, je vous en reparle dans quelques instants. Moi, personnellement, ce que j'adore avec le time blocking, c'est que ça va enlever cette fatigue décisionnelle de sans cesse se demander par quoi commencer, à quel moment le faire. Maintenant que j'utilise cet outil, chaque matin, quand je suis devant mon ordinateur, je sais quel est mon programme de la journée parce que je l'ai déjà défini en amont et ça m'enlève vraiment une charge mentale folle, sans parler du fait que ça me fait aussi gagner un temps fou. Cette méthode, elle me permet vraiment de réaliser mes objectifs bien mieux qu'avant, mais aussi de me dégager plus de temps libre, plus de temps pour moi. Tout le temps que je ne passe plus à sans cesse décider, redécider ce que je dois faire, qu'est-ce qui est le plus urgent, à me demander si j'ai envie de faire X ou Y en premier, tout ce temps-là, qui pour moi représentait en fait un temps assez considérable chaque semaine, je le réinvestis dans du temps libre, dans du temps pour moi. Si vous avez envie d'aller plus loin dans cette thématique du time blocking, je vais vous mettre le lien d'un article très détaillé que j'ai écrit à ce sujet dans lequel je vous montre vraiment à quoi mon planning de time blocking ressemble. Mon troisième conseil pour construire une vie qu'on a envie de vivre, c'est d'avoir de l'autodiscipline. Pour moi, l'autodiscipline, c'est vraiment un des ingrédients essentiels pour construire une vie épanouissante. Alors, sur le papier, la discipline, c'est pas hyper sexy, je vous l'accorde, mais je vous promets que ça fait toute la différence. Déjà, il y a une vraie différence entre discipline et motivation. La motivation, par définition, c'est plutôt éphémère et volatile. C'est pas parce qu'on est motivé le lundi matin à 8h qu'on le sera aussi le lendemain à la même heure. La discipline, au contraire, c'est un peu comme un muscle. Elle va s'entraîner et elle s'assimile grâce à la répétition régulière. Donc c'est justement la discipline et la pratique récurrente qui vont permettre d'exécuter des choses quand la motivation n'est pas vraiment là. À l'inverse, moins on utilise ce muscle de la discipline, plus il va être difficile de résister aux distractions qui sont nombreuses dans notre quotidien. Donc pour simplifier les choses, la motivation, ce serait l'envie de faire les choses, et la discipline, ce serait de faire les choses malgré tout, même si l'envie et la motivation ne sont pas là, parce qu'on sait que ça contribue à notre bien-être, que ça nous emmène vers nos objectifs, ou de manière plus générale, que ça nous aide à vivre la vie qu'on a envie de vivre. Ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais pratiquer la discipline dans son quotidien, ça m'a vraiment permis de me sentir beaucoup plus libre, beaucoup plus calme aussi, et ça m'a permis de me dégager davantage de temps pour mes loisirs et mon bien-être de manière générale. C'est aussi hyper bon pour la confiance en soi, de se rendre compte qu'on peut se faire confiance et qu'on peut compter sur soi, et que quand on a dit qu'on allait faire quelque chose, on le fait. Un exercice intéressant ici, ça pourrait être d'examiner vos habitudes. Est-ce qu'elles sont plutôt responsables d'un manque de discipline dans votre vie? Ou au contraire, est-ce que vous avez des routines établies qui vous permettent de créer de la discipline dans votre quotidien et d'atteindre vos objectifs? Est-ce que lorsque vous décidez de faire quelque chose, vous vous exécutez? Ou au contraire, est-ce que quand vous vous engagez envers vous-même, vous avez tendance à ne pas forcément respecter votre engagement? Donc en se posant ces questions, l'idée c'est évidemment pas de se juger, mais plutôt de regarder ce qui se passe pour nous et si on a envie d'aller vers certains objectifs, de se rendre compte que peut-être qu'une routine plus établie et associée à de la discipline pourra nous amener là où on a envie d'aller. Mon quatrième conseil pour créer une vie qu'on aime vivre, c'est de prendre soin de soi pour pouvoir gérer la pression et le stress qui font partie intégrante de la vie. Même si les choses sont en train de changer un peu, on évolue quand même dans une société où on a tendance à toujours faire, sans jamais s'arrêter. Le burn-out, c'est une vraie réalité et c'est hyper important de prendre soin de soi au quotidien et de se créer des bulles de décompression, même si ce ne sont que quelques instants. Il y a mille manières de prendre soin de soi et c'est important de trouver ce qui marche pour nous. Ça peut être le sport, la méditation, faire une activité manuelle, l'écriture, se faire masser, prendre un bain, faire des siestes, faire sa routine skincare chaque soir, passer du temps dans la nature. Il n'y a vraiment pas une seule manière de faire et c'est important de trouver ce qui marche pour soi. Évidemment, prendre soin de soi, ça passe aussi par le fait d'avoir une alimentation équilibrée, de boire assez d'eau, de prioriser au maximum son sommeil et de s'entourer de personnes avec lesquelles on entretient des relations saines. Je parle aussi très souvent de l'importance de prendre des pauses dans sa journée de travail. Donc, il y a beaucoup d'études qui soutiennent le fait que de prendre régulièrement des pauses, ça va nous permettre d'être plus efficace, plus alerte, plus productif ou productive, et ça va donc booster notre bien-être au travail. Souvent, on a l'impression que si on s'arrête, même quelques minutes, on va perdre en efficacité, mais au final, c'est tout le contraire qui va se passer. Si vous êtes entrepreneur, je dirais même que prendre soin de vous, c'est une vraie stratégie business. Si vous êtes l'une des ressources principales de votre entreprise, voire peut-être la seule ressource de votre entreprise si vous êtes solopreneur, prendre soin de vous, c'est la clé du succès de votre business. Ça, j'ai vraiment mis des années à le comprendre, mais depuis que je l'ai compris, je suis beaucoup plus épanouie et honnêtement, mon business ne s'est jamais aussi bien porté. Je travaille moins qu'avant en termes de temps horaire, mais je travaille de manière beaucoup plus concentrée, beaucoup plus efficace, notamment grâce au time blocking et à la discipline dont je vous ai parlé précédemment. Mon cinquième secret pour construire une vie qu'on a envie de vivre, c'est de savoir apprendre de ses erreurs. J'aimerais vous partager cette citation que j'adore de Michael Jordan, donc qui est ce basketteur incroyable qu'on connaît tous et toutes, qui a dit « J'ai échoué encore et encore et encore, et c'est pour ça que je réussis ». Apprendre à créer une relation saine avec l'idée de l'échec, c'est vraiment un outil hyper important pour réussir dans la vie. Plus on échoue, plus on apprend, plus on a de chances d'avancer et de réussir à aller là où on veut aller. Surmonter les échecs, ça va nous permettre d'évoluer en tant que personne, mais c'est quelque chose avec lequel la majorité d'entre nous a du mal, et moi la première. C'est important de ne pas laisser les échecs nous définir. C'est nous qui décidons comment est-ce qu'on veut choisir de voir nos échecs. Est-ce qu'on veut les voir comme une leçon ? Ou est-ce qu'on veut les voir comme une preuve qu'on était incompétent, incompétente ? C'est nous qui choisissons les pensées, positives comme négatives, qu'on va avoir au sujet d'un échec sur notre parcours. Et en fait, échouer, c'est pas un problème. Les échecs, ça fait partie intégrante du processus, et ça, on a souvent tendance à l'oublier. Très souvent, on a uniquement accès aux success stories de personnes qui ont réussi et pas aux dizaines d'échecs qu'ils ont dû essuyer avant de finalement réussir. C'est pour ça que j'adore lire les biographies de gens que j'admire et je suis toujours vraiment fascinée par leur ténacité et par le nombre de difficultés qu'ils ou elles ont dû traverser. Souvent, on a l'impression qu'ils ou elles ont réussi hyper facilement, mais c'est rarement le cas. Une de mes biographies préférées, c'est celle de Steve Jobs par Walter Isaacson. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais je vous la recommande chaudement. Pour moi, c'est vraiment un livre de développement personnel. Aujourd'hui, tout le monde connaît le nom de Steve Jobs et pourtant, son parcours n'a pas été aussi linéaire qu'on pourrait le penser. C'est quand même quelqu'un qui, à un moment de sa carrière, s'est fait renvoyer de sa propre entreprise. Donc vraiment, je trouve que ce type de biographie où on découvre l'histoire derrière les succès est hyper enrichissant et aide vraiment à intégrer le fait que échouer, c'est pas un problème. Ça fait partie du processus. Finalement, la croyance à adopter, c'est que l'apprentissage et la croissance viennent surtout de l'expérience et pas uniquement du succès. Ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit dans mon épisode précédent sur le syndrome de l'imposteur, que je vous invite à réécouter. Il y a pas mal de parallèles avec cet épisode-là. Et je dirais même que si on n'a jamais échoué dans sa vie, c'est qu'on reste probablement trop dans sa zone de confort au lieu d'essayer d'entrer dans sa zone de croissance. Ou là, évidemment, oui, il y a potentiellement davantage de risques d'échec. Mais une fois de plus, l'échec, ce n'est pas un problème. Et enfin, mon sixième et dernier conseil pour construire une vie qu'on aime vivre, c'est de développer sa confiance en soi. Personne ne traverse la vie absolument sans peur. Le but de la vie, ce n'est pas de jamais avoir peur, mais au contraire, ce qui va être précieux, ça va être de cultiver cette capacité à ressentir la peur et à ne pas la laisser nous empêcher de faire les choses. C'est cette idée qui est développée dans un livre que j'aime beaucoup de Suzanne Jeffers, qui est un classique du développement personnel et qui s'appelle « Feel the fear and do it anyway ». Donc en français, ce serait « Ressens la peur et vas-y quand même ». Et je trouve que ça résume assez bien les choses. On n'a pas à être sans peur ou à être entre guillemets, parfait, parfaite pour avoir confiance en soi. Et on n'a pas non plus à avoir 100% confiance en soi pour passer à l'action. Moi, je suis toujours nerveuse dans certaines situations, comme par exemple quand je prends la parole en public. Mais un, j'ai appris à ne pas voir la peur comme une raison de ne pas faire les choses. Et deux, j'ai aussi appris à développer mon courage, notamment grâce à cette connaissance de moi et grâce à tous les outils que j'ai pu apprendre au cours de mon cheminement perso et aussi grâce au coaching qui m'a vraiment permis de développer ma sécurité intérieure. Se libérer du regard des autres et cultiver ses différences, c'est aussi quelque chose de très important pour développer sa confiance en soi. Parfois, on a l'impression qu'être comme les autres nous protège et ça peut être le cas. Mais ce besoin d'acceptation, ce besoin d'être comme les autres, ça peut aussi être ce qui nous rend invisibles. Nos différences nous rendent uniques et c'est aussi ça qui va nous rendre intéressants. Et souvent, ce qui nous permet de nous connecter aux autres. C'est l'idée de définir une niche pour son business. Tout le monde ne se sentira pas concerné par le bien ou le service qu'on crée, mais ceux ou celles qui le seront ressentiront probablement une connexion très forte. Un autre élément qui me paraît important pour développer sa confiance en soi, c'est de ne pas chercher à se mettre dans une case, mais au contraire d'essayer de cultiver au maximum le fait de se sentir à l'aise avec qui on est vraiment profondément. Et ça, pour le savoir, il faut justement faire ce travail de connaissance de soi. Parfois, on ne va pas oser faire certaines choses parce qu'on a l'impression qu'elles ne correspondent pas à la case dans laquelle on s'est mise. Je vous donne un exemple personnel. Il y a presque 10 ans maintenant, quand j'ai commencé à avoir envie de parler de développement personnel sur mon blog et sur les réseaux sociaux, j'avais du mal à oser parce que je m'étais moi-même mise dans une case. À l'époque, je parlais surtout de mode et de beauté sur mes différents supports, donc je me disais que je ne pouvais pas parler d'autre chose. Ça ne rentrait pas dans la case. Mais qui a dit ça? Qui a dit que je ne pouvais pas parler de mode, de beauté et de développement personnel? Souvent, c'est nous qui nous mettons nos propres limites, par peur du jugement des autres, mais parfois, on projette aussi ce jugement. On s'imagine ce que les autres vont penser, dire, et on se laisse nous-mêmes enfermer dans des situations où on se sent bridé, contraint, contrainte, au lieu de se laisser être pleinement qui on a envie d'être et de se connecter à son propre potentiel. Aujourd'hui, sur mes différents supports, je parle de plein de choses. J'ai un podcast sur le développement personnel et le bien-être. Je suis coach de vie certifiée. Je crois d'ailleurs que je ne l'avais pas officiellement annoncé sur ce podcast, mais c'est fait. Je poste des vidéos avec des looks, des tenues que je porte. Je fais des photos de ma déco, je parle de beauté et ça marche. Qui a dit que je ne pouvais pas faire tout ça en même temps, que je ne pouvais pas me connecter à toutes ces différentes facettes de ma vie, de ma personnalité, si j'en avais envie? Si je m'étais écoutée à l'époque, il y a 10 ans, en me disant « Non, je parle uniquement de mode et de beauté, donc je ne peux pas parler de développement personnel », vous ne seriez pas en train de m'écouter aujourd'hui. Donc c'est intéressant de venir challenger ces pensées qui nous maintiennent dans une case. On peut aussi booster sa confiance en soi en apprenant à reconnaître ses qualités et en se félicitant de ses accomplissements. Trop souvent, on attend que les compliments viennent de l'extérieur. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, nous aussi, se faire à nous-mêmes ces compliments? Ça ne veut pas dire que les recevoir de l'extérieur ne nous fera pas plaisir, mais pourquoi est-ce qu'en parallèle, on ne pourrait pas aussi se dire à nous-mêmes ce qu'on a envie d'entendre? Félicitations, c'est grâce à tes efforts que tu en es arrivé là. Je suis fière de toi. T'as travaillé dur et tu y es arrivé. C'est génial ce que tu as fait. Franchement, si on n'est pas capable nous-mêmes d'être fiers de nous, d'être excités par nos propres accomplissements, alors qui va l'être pour nous? Personnellement, j'aime aussi beaucoup utiliser l'application Superhuman dont je vous ai parlé plusieurs fois. C'est une application qui est uniquement disponible en anglais, mais qui propose justement des pep talks, donc ces fameux discours d'encouragement, qui durent en général 3-4 minutes. Et moi, à chaque fois, ça me rebooste complètement. J'adore. C'est terminé pour l'épisode du jour. Je vous fais un petit récap des 7 secrets pour construire une vie qu'on a envie de vivre, apprendre à se connaître, définir ses objectifs et ses priorités, cultiver l'autodiscipline, prendre soin de soi pour gérer la pression et le stress, apprendre de ses erreurs, développer sa confiance en soi. Voilà, c'est terminé pour l'épisode du jour. J'espère que vous l'aurez apprécié, qu'il vous aura inspiré, reboosté, motivé. Comme toujours, n'hésitez pas à m'écrire à podcast@daphnemoreau.fr et je me réjouis d'avance d'échanger avec vous. Si cet épisode vous a plu, je compte sur vous pour le partager ou pour me laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître et à rayonner. Donc merci d'avance. Comme toujours, je vais clôturer cet épisode en vous partageant 2 de mes coups de cœur et découvertes de la semaine. Mon premier coup de cœur, c'est un épisode du podcast Change ma vie, qui est un podcast de développement personnel que j'aime énormément et dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, je pense. La semaine dernière, j'ai écouté un de leurs épisodes que j'ai vraiment trouvé hyper riche sur le sujet des conversations difficiles, avec justement des conseils pour avoir ce genre de conversation de la manière la plus sereine possible. J'ai vraiment adoré et je trouve que c'est un sujet qui n'est pas forcément très souvent abordé. Pourtant, c'est hyper puissant de savoir avoir des conversations difficiles parce que trop souvent, on a tendance à justement ne pas avoir ces conversations et potentiellement à cultiver du ressentiment parce que c'est compliqué de se mettre de manière proactive dans une situation d'inconfort en ayant ce genre de conversations difficiles, même si on sait qu'elles sont nécessaires. Et souvent, c'est beaucoup plus simple de les repousser sans cesse. C'est quelque chose, en tout cas, dont j'ai fait l'expérience dans ma sphère perso il y a quelques années maintenant. Et j'aurais beaucoup aimé avoir écouté cet épisode pour avoir encore plus d'outils à ma disposition. Donc, je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode si vous avez envie de l'écouter. Mais en tout cas, je vous le recommande chaudement. Et mon deuxième coup de cœur, c'est un coup de cœur lié à une activité dans laquelle je me suis lancée, qui est la poterie. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu que je prends des cours depuis quelques semaines et je ne peux pas vous dire à quel point j'adore ça. J'ai toujours beaucoup aimé les activités manuelles, mais j'avais un peu délaissé ça en vieillissant, en devenant adulte. Et je suis hyper contente de reconnecter avec ces activités manuelles. Je vous le dis tout le temps, j'adore apprendre de nouvelles choses. Et la poterie, c'était vraiment en haut des activités que j'avais envie d'essayer. C'est drôle parce que c'est aussi vraiment un super exercice pour travailler sur son perfectionnisme, d'être à l'aise justement avec cette idée d'apprendre à faire quelque chose, de ne pas réussir tout de suite, de devoir passer par l'exploration, par l'échec, de devoir recommencer, de sortir des pièces qu'on considère peut-être pas 100% parfaites. Donc au-delà du plaisir de faire quelque chose avec ses mains qui est super fort pour moi et d'apprendre une nouvelle compétence que j'adore aussi, c'est aussi intéressant en termes de voir justement comment on réagit quand on apprend quelque chose de nouveau et quand on ne sait pas faire tout de suite. J'ai l'impression que les activités manuelles ont vraiment le vent en poupe ces dernières années et je pense que c'est pas pour rien. On évolue tellement dans un monde de plus en plus connecté où finalement une grande partie d'entre nous travaille derrière un écran. On a beaucoup moins l'occasion ou en tout cas la nécessité de faire des activités manuelles. Et je pense que ça nous manque. En tout cas, moi, c'était mon cas. Et faire quelque chose avec mes mains, partir de rien et créer quelque chose, ça me procure vraiment beaucoup de plaisir, de bien-être. Et une fois de plus, apprendre une nouvelle compétence, je trouve ça hyper gratifiant. Donc voilà, je partage ça avec vous pour vous encourager. Peut-être, si vous en avez envie, à vous aussi vous lancer dans une activité manuelle. Et si c'est le cas, écrivez-moi pour me dire quelles activités vous avez choisies. Ça me donnera aussi certainement de bonnes idées.
Merci de nous avoir rejoints et d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée afin de ne manquer aucun épisode. Pour soutenir ce podcast, partagez cet épisode sur les réseaux sociaux en taguant mon compte Daphné Moreau, faites-le découvrir à un ou une amie qui pourrait l'apprécier, ou bien laissez-moi simplement un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à réagir à cet épisode et à m'envoyer vos questions, suggestions ou astuces par mail à l'adresse podcast@daphnemoreau.fr afin d'enrichir les prochains épisodes. Je compte sur vous. Je vous souhaite une très bonne semaine et prenez bien soin de vous.